code d'économie.
À la une, la controverse autour de la révision du code minier congolais qui continue. À Bounia, un groupe de 5 juristes propose dans un ouvrage l'adoption d'un texte consensuel. À Kinshasa, la Chambre des mines exhorte le gouvernement congolais à maintenir le régime fiscal du code minier actuel. Dans la province de l'Équateur, les femmes se rendent autonomes grâce à l'agriculture, l'élevage et autres activités génératrices de revenus. Elles ont révélé ce week-end à la clôture de la foire des femmes entrepreneurs, membres de la FEC. 40 000 dollars américains d'une ONG hollandaise pour la construction d'un pont sur la rivière Talolo en Ituri. Ce pont, dont les travaux vont durer une semaine, va faciliter les trafics et les transactions. Bonsoir et bienvenue à tous. La révision du code minier congolais, quel avenir pour les investissements en RDC? C'est l'intitulé d'un ouvrage écrit par 5 juristes congolais dont la présentation a été faite ce week-end à Bounia au cours d'une conférence débat. Selon les auteurs, le secteur minier en RDC est régi par une superposition des textes légaux, certains étant même inconstitutionnels et dont l'application demeure obligatoire. Ils recommandent ainsi aux législateurs d'adopter un texte consensuel pour faciliter les investissements dans ce domaine. Jean-Paul Bassila.
L'ouvrage est préfacé par l'actuel ministre de l'économie, Modeste Baati Lukwebo. Parmi les auteurs, Joseph Keta Orugno, avocat au barreau de Kinshasa, qui énumère une multitude des textes qui régissent encore les secteurs miniers en RDC.
Il y a un foisonnement de textes. Vous avez les codes miniers, vous avez les règlements miniers, vous avez les codes des investissements, vous avez la loi de finances. Nous pensons qu'il y a une certaine confusion, surtout en ce qui concerne des domaines d'octroi des titres. Le secteur artisanal doit être réorganisé, éviter l'empiètement dans certaines concessions qui sont déjà concédées aux investisseurs privés.
Dans la salle, certains co-débatteurs ont à leur tour opposé aux auteurs de l'ouvrage les privilèges dont jouiraient des investisseurs du secteur minier en RDC en matière fiscale. Il s'agit entre autres des multiples exonérations qui s'étendent même à leurs fournisseurs. Joseph Keta Orugno suggère, et c'est dit dans l'ouvrage, la mise en place d'un code minier consensuel.
Il faut absolument un code consensuel. Il ne faudra pas que ce soit un code qui puisse prévoir beaucoup d'exonérations en faveur des investisseurs. Il ne faut pas les accabler non plus avec des taxes.
La révision du code minier congolais, quel avenir pour les investissements en RDC? C'est un ouvrage édité à Kinshasa. Bounia, Jean-Paul Bassila, Radio Okapi.
Par contre, à Kinshasa, la Chambre des mines exhorte le gouvernement congolais à maintenir le régime fiscal du code minier actuel et souligne que les changements unilatéraux auront un effet néfaste sur le secteur de l'économie. Au cours d'une conférence de presse ce vendredi à Kinshasa, le président de la Chambre de Mines et vice-président de la FEC a déclaré que le code minier de 2002 attire les investissements, mais pas au détriment des taxes. À titre illustratif, les entreprises minières ont versé plus d'1 milliard de dollars américains au trésor public de la RDC l'an dernier, malgré la chute des cours de matières premières. Simon Tumawaku, qui le dit, est au micro de Michel Kifindangoy.
Le problème de l'heure, effectivement, c'est la révision du code minier. Les entreprises minières, les membres de la Chambre des mines sont un peu frustrés de la façon dont les discussions tripartites entre le gouvernement, la société civile et eux-mêmes se sont terminées en queue de poisson, alors qu'ils étaient prêts à essayer de trouver un certain consensus. Nous disons oui pour la révision du code minier, étant donné d'ailleurs que la constitution de notre pays est venue après 2002, donc il fallait l'adapter. Mais le régime fiscal douanier d'échange que nous avons adopté en 2002 ne commence à donner l'effet que maintenant. Parce que les entreprises minières déclarent que pour le moment, la répartition est plus ou moins 50-50 de deux côtés. Donc, ce sera une situation qui devrait satisfaire les deux parties. Si l'État dit que non, elle ne s'y retrouve pas parce que le code de 2002 ne produit pas les effets escomptés, on a dit tout à l'heure, le code a été voté en 2002, mais les entreprises, les premiers investissements chez nous n'ont commencé qu'en 2006. Si on enlève les 2 années de crise financière de 2008-2009, donc le code, en fait, n'est en application que de 6 ans.
Et pour bien comprendre ce dossier, Berry Luchaka nous propose des explications du code minier.
Le code minier de la RDC est la loi votée au Parlement et qui régit le secteur de l'exploitation et de commercialisation des produits miniers au Congo. La loi en vigueur, dont la révision serait au centre des controverses entre le gouvernement et les opérateurs miniers, date de 2002. Elle a été initiée en remplacement des vieux textes qui régissaient les mines en RDC. L'histoire des mines du Congo renseigne que depuis l'État États indépendants du Congo, les ressources minérales et particulièrement les substances minérales précieuses n'ont cessé d'attirer les chercheurs et investisseurs miniers de tous les horizons. C'est ainsi qu'en 1910, le Belge a élaboré la première loi pour légiférer l'exploration et l'exploitation des minerais d'abord dans le Katanga, avant de l'abroger en 1937 et étendre la loi sur l'ensemble du territoire national. La première loi des mines du Congo indépendant promulguée en 1967 sera remplacée par celle de 1981. Mais en tout et pour tout, ces différentes lois minières n'ont pas attiré suffisamment des investisseurs. Elles ont au contraire eu un impact négatif sur la production minière du pays et sur les finances publiques, car les régimes miniers, fiscaux, douaniers et d'échanges y contenus n'étaient pas incitatifs. Cependant, quelques exceptions sont à signaler. Les études statistiques indiquent que le volume des investissements et la production minière étaient importants dans la période allant de 1937 à 1966. Ils ont beaucoup baissé entre 1967 et 1996. 48 entreprises minières ont été opérationnelles entre 1937 et 1966, contre 38 seulement entre 1967 et 1997, et encore trop moins 7 entreprises seulement après 1997. Pour pallier cette insuffisance, le législateur congolais a tenu à mettre sur pied une nouvelle législation incitative avec des procédures d'octroi des droits miniers objectifs dans laquelle sont organisés les régimes miniers, douaniers, fiscaux et d'échange. La nouvelle loi a été votée en 2002, comme dit Sio, baptisée Code minier de la RDC. 10 ans après, c'est-à-dire en 2012, le nouveau Code minier, malgré ses avantages liés à son régime fiscal qui a attiré plusieurs investisseurs, la simplification des procédures d'octroi des titres miniers et l'ouverture du secteur minier aux capitaux privés n'a pas été bien appliquée sur le terrain. La lourdeur du système administratif, l'insécurité juridique et judiciaire, l'insuffisance des infrastructures de base dans le transport et l'énergie, une fiscalité jugée lourde mais surtout imprévisible au point même de remettre en cause la viabilité d'un projet minier sont les tares reprochées au nouveau code minier de la RDC. Voilà qui justifie, selon plusieurs opérateurs miniers, la révision des quelques clauses de cette loi.
La foire des femmes entrepreneurs, membres de la FEC Équateur, s'est clôturée ce week-end. Son thème central était l'autonomisation de la femme de l'Équateur à travers ses activités, agriculture, élevage, transformation et activités génératrices de revenus. C'est une initiative de la Commission nationale des femmes entrepreneurs, membres de la FEC, dans le cadre du mois de la femme. Paul-Richard Malengela.
Cette foire locale a connu une ambiance festive au parc Joseph Kabila de Mbandaka. Plusieurs femmes entrepreneurs de la ville, habillées pour la plupart en panne de la FEC, y ont pris part. À travers leur stand, chacune a exposé ses recettes. C'était des produits des champs, pêche et élevage. Les visiteurs ont également apprécié divers produits de transformation tels que jus de fruits, pommades médicinales, poudre ou gâteau à base du manioc, mais aussi une gamme de matériaux de construction et de réparation mécanique par des femmes. Pour le président de la FEC Équateur, c'est une grande réussite grâce à la formation que la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la FEC avait assurée à ces femmes en mai dernier. Teddy Molondo.
Bon, comme elles ont eu la formation, déjà les mamans ont eu vraiment le temps de s'adapter et facilement. Pour la toute première fois, c'est bien parti.
Parmi les bienheureuses de cette foire, Madame Nelly Sambo. Elle a réussi à écouler sur le champ des légumes, poulets, des chairs et viande de bœuf qu'elle avait exposé. Toutefois, les femmes entrepreneurs de l'Équateur restent confrontées à deux difficultés majeures. Constat de Madame Sylvie Feka, pasteur et femme entrepreneur venue de Kinshasa.
J'ai vu des femmes qui sont dans la pêche, mais il y a un problème, il n'y a pas assez de chambres froides ici à l'Équateur. L'autre contrainte, c'est par rapport à la transformation. Les femmes sont dans la production, mais pour transformer le produit, elles n'ont pas de machines. Et ça, je trouve que ça limite la vision de la femme à l'Équateur.
Signalons enfin qu'avec cette foire, le ministère provincial du genre a également marqué la clôture officielle du mois de la femme à l'Équateur. Mbandaka, Paul-Richard Malengela, Radio Okapi.
Direction le Sud Kivu, précisément à Sangué, où les vendeurs du marché de la cité de Sangué ne payent plus depuis 3 jours la taxe sur la vente de marchandises et la taxe sur les produits agricoles. C'est suite à l'appel du président de la nouvelle société civile du Congo, section de Sangué. D'après Bernard Kadogo Tondo, ces 3 taxes d'une valeur de 500 francs congolais chacune sont illégales. Illégalité reconnue également par le chef du service de l'économie de la cité de Sangué. Bernard Kadogo Tondo Diallo explique au micro de Gilbert Kwangabadugu de la radio rurale de Sangé.
Nous avons interdit la taxe illégale de la cité de Sangé dans le marché local de Sangé parce que cette taxe était une photocopie, ce n'était pas une originale. Ce sont des raisons qui nous ont poussé à l'interdire. Et nous avons écrit à des échelons, nous avons écrit à monsieur l'administrateur du territoire, lui dire que non, nous observons qu'il y a des vols qui sont dans le marché de Sangé et nous l'avons demandé d'intervenir pour interdire cette taxe-là. Nous avons eu des correspondances au niveau de la DPMR Uvira qui ont fait une descente dans le marché de Sangé. Nous avons eu des correspondances au niveau de Bukavu qui nous ont dit que non, que ces gens-là ils sont en train de voler les trésors publics. De cet effet, nous avons constaté que nous ne pouvons pas demeurer avec des personnes malveillantes qui ne veulent pas que les trésors publics soient remplis et qui sont là pour voler la communauté.
Écho d'économie. Terminons par l'Itouri où nous parlons du début ce lundi des travaux de montage d'un pont métallique sur la rivière Talolo située à 40 km au sud de Bounia. Ce pont dont les travaux vont durer une semaine reliera le village de Nikagoro à celui de Nyankunde selon les autorités coutumières locales. Cette action vient ainsi épargner les villages environnants de plusieurs cas de décès par accident enregistrés dans cette rivière. Le pont est l'œuvre de Desire, une ONG de droit hollandais, en partenariat avec Greenhouse, une ONG congolaise. Son coût est estimé à plus de 40 000 dollars américains. Jean-Paul Bassila.
Le pont métallique dont les travaux de montage ont été lancés ce lundi a été fabriqué aux Pays-Bas. Il est long de 22 mètres et large de 2 mètres et demi. Sa durée de vie prévue est d'au moins 100 ans. Il va remplacer un petit pont fabriqué à partir des troncs d'arbres sur lesquels le passage a déjà coûté la vie à plus de 20 personnes. Les victimes sont presque toutes mortes et tombées et noyées dans la rivière Talolo. Chaque fois qu'il se rivière connaît la crue, les habitants des villages des Kaya, des Badia, des Sililo, des Boya et des Ndenge sont obligés de parcourir une distance d'environ 10 km à pied en contournant par Marabout pour atteindre le village des Nyankunde. C'est ici qu'il y a concentration des bonnes écoles primaires et secondaires ainsi que la présence d'un hôpital général de référence dans la région. Selon Bassara Gabriel, responsable de l'ONG Greenhouse, ce pont a été acheté grâce aux collectes effectuées auprès des chrétiens protestants du petit village hollandais des Délières, hébergeant moins de 15 000 habitants. Bounia, Jean-Paul Bassila, Radio Okapi.
Écho d'économie, c'est fini pour ce soir. Une édition supervisée par Léonard Moulamba, mise en onde par Mimi Kindou Acoustique et suivie par vous. Merci.